bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Des journalistes de Libération et des Inroc accusés de harcèlement via la Ligue du LOL, ils s'en sont pris à des femmes, des pigistes, de jeunes journalistes, c'était il y a 10 ans. La parole s'est libérée sur les réseaux sociaux ce week-end, d'où nous y reviendrons. Nous analyserons aussi l'ampleur de la falsification de médicaments dans le monde. Depuis 2 jours, les pays membres de l'Union européenne doivent mettre en place des règles strictes, des règles communes, et ce pour éviter les faux médicaments. Et puis un programme social pour le Parti social-démocrate en Allemagne, le SPD est en pleine crise, alors que débute une année électorale importante, nous irons outre-Rhin. Insultes, moqueries, photomontages racistes des victimes de la Ligue du LOL témoignent sur les réseaux sociaux depuis quelques jours, 10 ans après avoir été cyberharcelés. En 2009, en effet, un groupe d'internautes a été sur Facebook, la Ligue du LOL donc. Elle était composée de journalistes, de professionnels de la communication et de la publicité. Ils ont utilisé Twitter pour s'en prendre à des blogueurs, des féministes, de jeunes journalistes. Et aujourd'hui, les victimes brisent le silence. Marine Protet.
Elle a à peine 20 ans quand elle devient une des cibles de la Ligue du LOL. Capucine Pio travaille alors dans la presse féminine. Elle est très active sur Twitter. 2 motifs suffisants pour être l'objet de moqueries. Traumatisée, elle décide d'abandonner son rêve d'être journaliste. Elle change de profession.
Je me suis fait traiter de pute quand même sur Internet. On critiquait beaucoup mon physique parce que dans la tête de ces gens, avoir un blog beauté, donc pour parler de cosmétiques, il fallait être belle. Je suis convaincue aujourd'hui que je serais journaliste si ma réputation n'avait pas été freinée par ce type d'action.
Des hommes aussi sont harcelés. Mathias Jambon-Puyet est blogueur. Il publie sur Internet des textes intimes qui sont rapidement parodiés par ses bourreaux. Il essaye de leur en parler, mais le dialogue est impossible. Il n'y a que des menaces physiques qui finissent par les éloigner.
Les virilistes ne répondent qu'à la virilité, ce qui est dramatique. J'en ai attrapé un, notamment par le col. Et je lui proposais qu'on s'explique, comme on dit, entre machos. Et à ce moment-là, il a perdu toute contenance et il est parti se réfugier très très loin dans le bar. J'ai attendu pendant plusieurs heures qu'il sorte, il n'est jamais sorti, mais je n'ai plus jamais eu d'ennui de la part de cette personne par la suite.
Toutes les victimes que nous avons jointes affirment que ces pratiques n'étaient pas isolées, mais elles n'ont pas porté plainte de peur de perdre leur travail.
Et précisons que les harceleurs mis en cause, des journalistes reconnus pour certains, ont aussi réagi. Certains s'excusant de ne pas s'être rendu compte de la portée de leurs mots, d'autres expliquant que ces pratiques correspondaient à une époque. Nous ne nous habituerons jamais à ces visages tuméfiés. C'est ainsi que le président de SOS Homophobie réagit à l'agression de 3 personnes à Bordeaux. Les faits remontent à la nuit de vendredi à samedi. 2 des 3 victimes ont porté plainte. Elles ont été agressées à la sortie d'un bar bordelais alors qu'elles fumaient une cigarette. Que s'est-il passé samedi devant l'Assemblée nationale à Paris en pleine mobilisation des Gilets jaunes? C'est ce que tente de savoir la justice. Une enquête a été ouverte pour comprendre comment un manifestant a pu avoir la main arrachée lors d'une intervention des forces de l'ordre. En bref, encore, le projet de loi pour une école de la confiance est débattu à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale et toute la semaine d'ailleurs dans l'hémicycle. Principale mesure de ce projet de loi, l'abaissement de l'instruction obligatoire de 6 ans à 3 ans pour tous les enfants. Cela pourrait obliger les communes à financer les maternelles des écoles privées autant que les écoles publiques. Nous en venons maintenant à cette obligation entrée en vigueur il y a 2 jours tout juste. Chaque boîte de médicaments vendue dans l'Union européenne doit être dotée d'un code-barre unique qui garantit son authenticité. Une exigence européenne qui vise à lutter contre la contrefaçon. La directive date de 2011, mais il a fallu la calquer à tous les pays membres ces dernières semaines, ces derniers mois, équiper ainsi les chaînes de production, permettre aussi à tous les pharmaciens de scanner les codes-barres. En France, le système est l'un des plus sûrs au monde, mais à l'échelle planétaire, les faux médicaments représentent tout de même, Tara Schlegel, un trafic de 200 milliards d'euros.
Il est toujours difficile d'estimer l'ampleur d'un marché noir, mais toutes les classes de médicaments sont imitées, de l'anticancéreux le plus cher au générique le plus banal. Geoffroy Besseau coordonne la lutte contre les faux médicaments chez Sanofi. L'Afrique est particulièrement frappée, dit-il.
Au Nigeria, par exemple, 60 à 70% d'une classe thérapeutique, qui est celle des antalgiques, donc les produits antidouleurs, sont constitués de médicaments contrefaits falsifiés. Donc ça veut dire que pour les patients de ces pays, c'est une menace de santé publique considérable.
Sanofi a créé un laboratoire qui analyse ces tablettes composées parfois de métaux lourds, de substances frelatées.
Tout produit a ce qu'on appelle une signature chimique. C'est comme une empreinte digitale, si vous voulez. Il se trouve que dans notre laboratoire, on a analysé à peu près 40 000 échantillons suspects du monde entier. Donc, Quand on a cette empreinte chimique et qu'elle ressemble à un produit déjà connu qui se trouvait venir de telle région de Chine ou d'Indonésie ou d'Amérique latine, ça permet d'accélérer la traçabilité, la recherche du réseau d'origine.
L'industriel prévient alors les autorités locales qui peuvent sévir. Avec la nouvelle traçabilité, en Europe au moins, la chaîne de distribution des médicaments est presque inviolable. Mais rien n'est définitivement gagné. Geoffroy Besseau.
Sur Internet, on estime qu'il y a à peu près 50 à 60 000 sites qui proposent des médicaments, je mets des guillemets, 97% de ces sites agissent en toute illégalité.
Même en France, hein.
Ah mais le site internet n'a pas de limite.
Voilà pourquoi il faut profiter du réseau de pharmacies extrêmement dense qu'on a en France et continuer à lutter à l'échelle mondiale.
À Paris, à Bordeaux, Marseille ou encore Nice, la circulation pourrait être compliquée ce matin. Les moniteurs d'auto-école protestent contre la réforme du permis de conduire. Elle sera présentée demain. Ces moniteurs craignent que leur travail de proximité ne soit menacé par les plateformes en ligne pour passer le permis de conduire. Des opérations escargots sont donc prévues, notamment sur le périphérique parisien ce matin. La droite et l'extrême droite, main dans la main en Espagne. 45 000 personnes, selon la police, ont défilé hier à Madrid contre le socialiste Pedro Sanchez, le chef du gouvernement. Il l'accuse d'avoir trahi l'Espagne en dialoguant avec les indépendantistes catalans. Parmi les manifestants hier, il y avait l'ancien Premier ministre français Manuel Valls. Le candidat à la mairie de Barcelone estime qu'il ne faut pas laisser l'avenir du pays aux mains des séparatistes, des nationalistes et des populistes. En Allemagne, le SPD présente un programme social tournant ainsi le dos au libéralisme à la Schröder. La direction du parti réunie ce week-end s'est tournée vers cette nouvelle année 2019, marquée par les européennes, des élections municipales et trois élections régionales également en Allemagne. Des élections pour lesquelles le SPD est bien mal parti, Nathalie Versieux.
Le SPD n'est plus crédité que de 15% des intentions de vote. Selon certains observateurs, le plus vieux parti d'Allemagne, fier d'avoir été le seul à résister au national-socialisme, pourrait même disparaître du paysage politique. Pour les sympathisants comme pour la direction, la cause de cette débâcle est à chercher du côté des réformes d'inspiration libérale que l'ancien chancelier social-démocrate Gerhard Schröder avait imposé à son parti voici 15 ans. Le SPD ne s'est jamais remis de cette cure de libéralisme. Pour reconquérir l'électorat, la direction a décidé de mettre le cap à gauche. Le programme prévoit une augmentation du salaire minimum à 12 euros de l'heure au lieu de 9 euros aujourd'hui, l'augmentation des minimums sociaux pour les enfants vivant dans les familles pauvres, ils sont 2 millions dans le pays, l'allongement de la durée de l'indemnité chômage pour les chômeurs âgés ayant travaillé 35 ans et la possibilité de mieux concilier vie professionnelle et vie privée grâce à un droit au télétravail et aux périodes sabbatiques. L'aile gauche du parti approuve, les plus sceptiques se demandent comment le SPD compte financer toutes ces réformes s'il revenait au pouvoir.
Nathalie Versieux pour France Culture. Partons maintenant en Autriche où l'État va devoir débourser 1,5 million d'euros pour dédommager l'ancienne propriétaire de la maison natale d'Adolf Hitler. Elle avait été expropriée moyennant près de 300 000 euros, pas assez, avait-elle estimé. Et la justice autrichienne a donc tranché en sa faveur. Les précisions d'Isorias.
C'est au nord de l'Autriche, à Braunau am Inn, que se trouve la maison de la discorde, celle où naquit Adolf Hitler le 20 avril 1889. Une vieille bâtisse jaune de 800 mètres carrés qui déchaîne les passions depuis des décennies. Pour éviter qu'elle ne devienne un lieu de pèlerinage des néo-nazis, le gouvernement autrichien fait voter en 2016 une loi pour pouvoir exproprier Gerlinde de Pommer. Cette dernière conteste la décision, mais la Cour constitutionnelle donne raison à l'État, qui devient donc le nouveau propriétaire. Et verse à Gerlinde de Pommer 310 000 euros de dédommagement. Un montant trop faible aux yeux de cette dernière qui vient donc à son tour d'obtenir gain de cause en vertu de la décision d'un tribunal régional qui enjoint l'État autrichien à lui verser 1 500 000 euros. Jugement dont l'État peut toutefois encore faire appel. Cette bataille juridique illustre la controverse persistante en Autriche autour de cet héritage gênant. Certains prônant la destruction de la maison, d'autres la création d'un lieu éducatif sur le néonazisme. Le bâtiment devrait finalement être conservé, mais on ne sait pas encore à quelle fin. L'hypothèse d'un centre d'accueil pour les personnes handicapées, fonction que la bâtisse a eue durant plusieurs années, a été avancée par le ministère de l'Intérieur.
Isoria Savienne pour France Culture. Et puisque l'on évoque l'héritage d'Adolf Hitler, retrouvez un article complet sur les mises aux enchères d'objets ou de tableaux nazis, Hitler aux enchères. C'est sur notre site internet franceculture.fr. La pluie s'en va vers l'est aujourd'hui pour quitter le territoire français en fin de journée et le soleil va s'affirmer un peu. Il va arriver par l'Atlantique ce matin, comptez 4 degrés à Lille, 5 à Strasbourg et Lyon, 7 degrés à Paris, 11 à Nice.